Il est 7 heures ce matin. Depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère, on s'est mis à crier, à s'énerver. Certains ont décidé de changer d'air. Nous, les Français, on a continué. Yes! De Funès, Bacri, Mélenchon, le goût pour les cris, les ronchons. L'amour de se plaindre, la colère, vouloir être ailleurs, vouloir changer d'air. Le pessimisme comme un manteau gris qui nous protège de la nuit. L'amour, pour ceux qui aiment, aller jusqu'au bout, aimer, lutter, porter des coups. La voix, les cris, celle qu'on n'entend pas, celle qui bruisse des pas, qui marche sur nos doigts. Se relever, lutter et se plaindre comme un droit. Avec de l'autodérision, de l'humour, avec à cacher derrière la colère un amour infini. Pour tout ce qui vit, tout ce qui palpite, pour le cœur qui bat. Pour les autres à qui on ferme la bouche, à qui on ferme les yeux et qui continuent de se battre au fond d'eux. Un Français, c'est un Italien de mauvaise humeur. Un Français, c'est aussi un homme qui se lève de bonne heure et qui se couchera tard parce qu'il aime s'accrocher aux branches, comme dans la jungle des choses, comme dans la jungle de la ville. C'est une tentative. J'ai voulu partir sur des bits un petit peu plus rapides avec mon comité de conseil hip-hop. Donc vous faites partie, Thierry Paresse. Ouais,
tout à fait, c'était de fort belles factures.
J'ai envie de dire, quand même. Le journal de Thierry Paresse.
Bonjour à tous. S'ils étaient entre 8000 et 10000 manifestants à Cayenne, entre 3500 et 4000 à Saint-Laurent-du-Maroni, la journée morte en Guyane hier a été historique. Les plus grosses manifs jamais organisées sur le territoire, selon les autorités préfectorales. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé hier soir que les ministres de l'Intérieur et celui de l'Outre-mer, celle en l'occurrence, se rendraient sur place ce mercredi pour tenter de trouver une issue à la crise. Après François Fillon et Marc Joulot, c'est au tour de Pénélope Fillon, la femme du candidat de la droite à la présidentielle, a donc été mise en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. Cela aura été l'audition la plus longue des trois personnalités convoquées, 13 heures. Pénélope Fillon qui doit donc répondre de l'accusation d'emploi fictif à la fois à l'Assemblée nationale en tant qu'attachée parlementaire et à la Revue des Deux-Mondes.
J'ai pas suivi, moi je viens d'arriver en France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je sais pas.
Vous non plus
non, quelqu'un est au courant? J'ai suivi, mais
bah
j'ai pas
compris. Moi aussi je vais travailler ma femme.
Prochain débat présidentiel le 4 avril sur BFM TV. Contrairement au débat de TF1 le 20 mars dernier, tous les candidats seront cette fois sur le plateau. Mais un troisième et ultime débat est envisagé sur France 2 le 20 avril, donc trois jours avant le premier tour. Un contexte inacceptable pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a fait savoir qu'il ne participerait pas à ce dernier débat compte tenu de son programme d'activité et de la construction de son programme. Même réticence du côté d'Emmanuel Macron. Le candidat du Mouvement En Marche a émis des réserves sur un débat de dernière minute. Pour le moment, France 2 maintient ce débat.
Vous avez vu que Marine Le Pen fait travailler son mari aussi. Elle l'a fait engager dans le parti, il a un salaire et tout. Hein. Moi, j'ai tous mes copains du Front National me disent on sait pas quoi en faire, il ne vient jamais aux réunions.
Comme François Fillon et Emmanuel Macron avant lui, Benoît Hamon a rencontré Angela Merkel hier à Berlin. À l'issue de la rencontre avec la chancelière allemande, le candidat socialiste à la présidentielle a souligné les convergences avec la dirigeante conservatrice concernant la politique de défense et la transition énergétique. Alors, côté des accords, Benoît Hamon a notamment cité les politiques budgétaires européennes. La faiblesse de Benoît Hamon nécessite de prendre ses responsabilités. Petite phrase signée Manuel Valls.
Vous êtes politisé.
C'est bien possible.
Parce que quand vous dites Le Pen, vous le dites moins gentiment que quand vous dites Hamon, Mélenchon. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre ce qui se passe.
Il se murmure en tout cas que l'ancien Premier ministre pourrait appeler, donc Manuel Valls, pourrait appeler ce mercredi à voter Emmanuel Macron à la présidentielle. Ancien préfet de l'Île-de-France, directeur de cabinet de Manuel Valls, Jean Daubigny sera jugé pour fraude fiscale. Il est soupçonné de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014 pour un montant de 190 000 euros. Donald Trump vient de signer un décret ordonnant un réexamen de la mesure phare de Barack Obama sur le climat, le Clean Power Plan, qui impose aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de CO2 de 32% d'ici à 2030 par rapport à 2005. Mesure qui répond pourtant aux engagements souscrits dans l'accord de Paris de décembre 2015. Le Parlement de l'Écosse a donné son feu vert à Nicola Sturgeon pour demander à Londres un nouveau référendum d'indépendance. La première ministre écossaise peut à présent en faire la demande officielle auprès des autorités britanniques. Theresa May, première ministre britannique, a déjà fait savoir qu'elle jugeait que ce n'était pas le bon moment pour un nouveau référendum en Écosse. Theresa May qui a signé hier soir la lettre qui déclenche officiellement le Brexit. Coup de tonnerre à Abidjan, poursuivi pour crime contre l'humanité. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été jugée jugé non coupable et acquitté à la majorité des membres du jury. Ilich Ramirez Sanchez Di Carlos a été lui condamné à la réclusion criminelle à perpétuité hier pour l'attentat du drugstore Publicis qui avait fait 2 morts et 34 blessés à Paris en septembre 1974. Il a 10 jours pour faire appel. Et puis sachez pour finir que l'équipe de France de football n'a pas fait le poids. Hier soir, face à l'Espagne, les Espagnols se sont imposés 2-0 au Stade de France. But sur pénalty, puis à la 68e et un but à la 77e aussi, initialement signalé hors-jeu avant que la vidéo ne valide ce but. Notre acte la vidéo a permis également de ne pas valider un but de Griezmann. Juste au sortir de la mi-temps, le joueur était en fait carrément hors-jeu.
Mais pour les soutiens politiques, vous croyez qu'on peut dire non? Parce que si vous avez, par exemple, il y a quelqu'un de très impopulaire en France, avec François Hollande, le président n'est pas très populaire, imagine qu'il dise bah, je vais te soutenir à Macron. Non, mais te dérange pas.
Il le dit un peu. Hein.
Il le dit. Mais vous croyez que l'autre, poliment, peut dire non, mais t'embête pas, tu dois avoir du boulot parce que tu dois voyager, il y a peut-être des inaugurations d'école. Non, je vais te soutenir. Non, tu sais, on va s'en faire.
T'embête pas, ça me ferait plaisir, mais t'embête pas.
On va faire sans. Merci pour cette analyse politique très fine qu'on vient de faire. À tout de suite avec encore mieux si on y arrive. Ça, on ne sait pas.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Oh yeah, oh yeah. Voilà. Pas non plus qu'ils s'installent. Il ne faut pas que les gens s'installent. C'est pas un studio de répétition. C'est une radio. On peut venir chanter sa chanson, mais on ne peut pas s'installer. Je suis désolé, je ne peux pas accueillir toute la musique du monde. Alors, envoyez le club des connoisseurs. Qu'est-ce qui fait actualité? Qu'est-ce qui est actuel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui nous concerne tous en tant que groupe humain? Ou qu'est-ce qui ne nous concerne que individuellement, égoïstement? C'est ce que les connoisseurs arrive à déceler chaque matin. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonsoir. On sent toutes ces générations, salut, tous ces sexes différents qui sont là.
Huit
personnes en studio. Autour de Marie Misset, nous avons Thomas Baumgartner.
Bonjour. Merci.
Atmen Kelly.
J'adore.
Merci.
Les grosses têtes avec aussi Arnaud Aymar.
Salut. Hey.
Tito Puente.
Yes.
Armel M. Eugénie Poumaillou.
Bravo.
Et bien sûr, Marie Misset elle-même.
Marie
Misset, commencez puisque vous êtes celle qui a ouvert la presse le plus tôt. Je vois que vous êtes dans le Figaro, vous êtes à la page Marion Maréchal Le Pen où il y a un portrait d'elle que vous alliez découper pour l'encadrer.
Vous mentez, Edouard, j'étais à la page d'avant. Mais c'est vrai que Marion Maréchal et Marine ne sont pas en très bons termes parce que Marine Le Pen a dit qu'elle ne donnerait pas de poste à Marion Maréchal Le Pen qui a répondu qu'elle n'avait rien demandé. Mais il y a un truc qui m'a fait rire ce matin. C'est, j'ai l'impression qu'on présente les Chiraciens comme des Pokémon. Parce que figurez-vous que les Chiraciens sont en train de rejoindre en masse Emmanuel Macron et en marche, du coup.
Qui sont ces Chiraciens qui restent encore debout?
Eh bien, il y a par exemple Marianne Monchamp, l'ancienne secrétaire d'État.
Les gens se demandaient où elle était.
Avec Jocelyne Trochot, on la connaissait aussi.
Et alors, il reste Claude Chirac, la fille de l'ancien président, qui pourrait rejoindre Emmanuel Macron.
Le suspense, c'est brûlant.
C'est insoutenable.
Et alors, l'arche de Noé.
Là où j'ai pensé Pokémon, c'est quand j'ai lu la phrase, il y en a encore quelques-uns qui traînent dans la nature, mais on ne devrait pas tarder à les attraper. Ah,
justement, moi, c'est mon actualité.
Arnaud Emma.
Il paraît que Bob Marley a rejoint Macron.
Bon, bah alors vous allez dans les...
Et Maurice Thorez a rejoint Macron.
Très bien, c'est très mignon.
Poujade a rejoint Macron.
Est-ce qu'on peut parler d'actu décalé à votre cas?
Non, c'est...
coquin.
Pourquoi vous dites
beaucoup
ça?
Beaucoup de gens décédés quand même.
Moi j'attaque parce que je voudrais...
Oui, Atmen.
Alors je tenais à le dire parce que je voulais en parler et j'avais pas l'angle. Mais
vous êtes mis debout comme si vous alliez vous faire virer.
Voilà, mais pas vraiment. Non, je suis assis. Les ciments Lafarge. Voilà, je voulais
les ciments Lafarge, oui.
Voilà, alors donc, il n'y aura pas de sable cet été sur Paris Plage.
C'est vrai?
Parce que le groupe
je vous rappelle que l'opération Paris Plage, chaque été sur les quais de la Seine à Paris, on crée une sorte de plage artificielle avec du sable, des jeux, mais ça reste l'eau de la Seine.
C'est à la fois local et international. Donc les ciments Lafarge ont été déboutés par le conseil écologique de la mairie de Paris parce qu'ils veulent faire une espèce de boycott à cette entreprise Lafarge qui veut construire le mur, qui s'est proposé de construire le mur de Trump anti-clandestin, et qui avait mis une cimenterie encore en Syrie, et qui avait pactisé avec l'État islamique. Donc la mairie de Paris a décidé de ne plus utiliser du sable.
Qui veut faire le mur?
Oui, sinon vous le ferez vous, Arnaud, le mur.
Et aussi, il n'y aura pas de sable non plus, ça va être végétalisé. Il n'y aura plus de
sable. Ouais, il n'y a plus de sable.
C'est bien parce qu'il n'y a plus de sable.
Il y a plus de sable. Ils avaient dit en terminant, on ne veut pas de ce sable qui sent le sang. Voilà, qui porte le sang.
C'est tout ce Donc il faut prendre que des grandes entreprises qui sont moralement inattaquables depuis 70 ans.
Ça va être dur.
Les ciments Arnaud et Marc, pendant la guerre, ne sont pas bien confortables. Ah, qu'est-ce que
c'est sûr, c'est bien
confortable. Vous voulez faire le mur.
On nous a demandé de faire des choses du bâtiment.
Non, mais on est sur
blocos.
Qu'est-ce que vous voulez dire sur
la
Paris-Plage?
Ben, je trouve que c'est bien. Parce que ce qui est chouette dans ce genre de... dans ce genre de... Enfin, le mot, je ne l'ai pas là, mais oui, dans ce genre d'événement, c'est de pouvoir mettre du sable sur un... Enfin, je trouve ça génial. Non, mais je vais...
Non, mais là, il n'y a plus de mots.
Je suis viré.
Il n'y a plus de mots.
Non, mais il n'y a plus de mots, parce que j'avais Thomas Baumgartner qui a des belles infos. Vous êtes en train... Le club des connoisseurs,
en même temps, c'était une maladie. En train de s'effondrer. Les gens, il ne faut pas trop leur donner d'informations. Ils se réveillent. Il ne faut pas aller trop vite non plus.
Thomas Baumgartner.
Tu bouffes quand tu peux bouffer, tu bois quand tu peux boire, tu dors quand tu peux dormir et tu pisses quand tu peux pisser. Ce conseil est signé Jacques Chirac, précédemment cité, pour les jeunes politiques qui se lançaient dans les campagnes, parce qu'il faut tenir pendant une campagne électorale et particulièrement une campagne présidentielle, les candidats engagés corps et cam, ça c'est le titre de Libération qui est un tout petit peu mensonger, parce que pour tenir, pour avoir la santé quand on est candidat à une élection, apparemment il y a peu de drogue officiellement, malgré l'enquête de Laure Breton là, dans Libé, c'est surtout dur de faire un régime, beaucoup de candidats perdent du poids, c'est pour François Hollande par exemple, une aspirine avant un discours. Passe-moi un aspro, apparemment, c'est une phrase rituelle maintenant pour François Hollande. Essayez de faire du footing et éventuellement quand même un petit peu d'alcool. La potion magique des politiques reste la plus franchouillarde qui soit. C'est l'alcool, le premier, le plus accessible des neuro-excitants. C'est le docteur William Loewenstein qui est président de SOS Addiction qui dit ça.
Ça m'énerve le côté, ils sont forcément camés les politiques. Aucun humain pourrait faire ça. C'est un peu la revanche des médiocres contre les gens qui font des choses qui leur échappent. Évidemment, il doit être mal. Je ne sais pas, on peut être de temps en temps, puis il y a peut-être des gens qui sont il y a peut-être des antidouleurs. Non, des gens
alors, il y a un peu d'antidouleurs pour les gardes du corps, apparemment. Ah, c'est ce qui est dans l'article. Et puis, en fait, les projecteurs, c'est le plus puissant des excitants. Quoi. Monter sur scène, l'adrénaline fonctionne pas mal. Mais bon, il y a quand même un médecin qui dit les politiques n'ont pas de contrôle antidopage.
Donc, voilà, c'est qu'il ne faut pas refuser, en tout cas au sein de l'agriculture, un petit coup à boire, un petit morceau de fromage, un petit morceau de saucisson, même si c'est le 800e de la journée. On imagine mal, monsieur, ça vous intéresse un petit vin de chez moi? Bah, bien sûr que ça m'intéresse.
Et une petite sieste, ça marche aussi les micro-siestes.
Une petite sieste, ça marche. Tito, vous avez fait une petite sieste.
Rendez-vous le 3 juin à 8h au stade de la ville de Sarcelles. Il y aura du café, des sandwichs et des saucisses. Viens avec tes charentaises. Et ouais, cette année, c'est encore la sélection pour le championnat du monde de lancer de charentaises. Alors, dans la ville de Sarcelles, au stade de football. Trois catégories, les 60 kilos, les 80 kilos et les 100 kilos. Et chacun...
Il y a un concours annuel du lancer de charentaises.
Voilà, et là, ça, c'est les sélections pour le championnat du monde.
Mais si c'est le 3 juin, pourquoi vous me l'annoncez ce matin?
Parce que j'ai eu l'information, il faut que les gens s'inscrivent à l'avance et tout.
Ah bon?
Donc, trois catégories. Et une nouvelle catégorie cette année, la catégorie saucisson pastis.
Mon Dieu. Avez-vous eu votre dose d'infos du petit matin?
Oui.
Oui, alors oui. Tout de suite un panel d'auditeurs, oui.
Ah oui, moi ça m'a bien plu sur tout ce qu'il a fait.
C'était super.
Je suis régalé. Je vois mieux le monde maintenant. Merci mon enfant. Allez, à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
La BO du film Félicité d'Alain Gomis qu'on reçoit juste après. Alors, arrivée en studio de Véro Chanda Beyal, l'actrice de Félicité, bonjour, vous allez bien? Des cafés sont servis, le micro n'est pas encore tendu, ce sont ces émissions du réveil où les gens se réveillent en direct. Véro, vous aurez tout le loisir de vous réveiller grâce à un accueil café, qui est une tradition de cette émission et qui est payant. C'est le tout petit plus de Radio Nova. Alain Gomis, on a écouté, c'est un film qui se passe dans les nuits de Kinshasa, c'est un film qui est aussi très très musical, il y a une bande-son qui est extraordinaire. Quel est le groupe qu'on entendait là?
C'est le Kasaï All Star.
Comment, ce sont que des groupes de Kinshasa, des groupes que vous connaissiez avant?
Ouais, que je connaissais avant, qui en fait c'est la réunion de cinq groupes différents du Kasaï, qui est une grande région... de RDC, qui doit être grande comme la France. Et donc, il y a ces groupes-là qui réunissent cinq traditions musicales différentes, qui est une musique à la fois traditionnelle, folklorique, qui se joue aussi bien dans les enterrements que dans les bars, et je ne sais plus ce que je voulais dire.
Non, mais c'est bien. Non, c'est un peu comme les musiques slaves, c'est les musiques mariage et enterrement, finalement, ce sont les mêmes fêtes.
Oui, ça va ensemble. On peut s'habiller pareil, presque.
Alors, les nuits de Kinshasa, ça fait un peu rêver. Alors, il y a plus que il y a le Congo-Brazzaville qui fait moins rêver, on ne sait pas pourquoi le Congo-RDC, le Congo de Kabila, cette ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'elle a de si électrique? Pourquoi est-ce que ça reste cette énergie? Et mais musicalement, c'est encore une ville si importante.
Mais c'est une ville qui réconcilie de façon permanente le possible et l'impossible. Quoi. C'est une ville où les choses très simples peuvent devenir extrêmement compliquées et inversement. C'est une ville qui... Voilà, qui a subi toutes ces colonisation, dictature, guerre, et où les gens continuent d'être debout, où il y a une force de création qui permet une espèce de réconciliation permanente avec les avec la possibilité de vie. C'est une ville où dont on sort grandi, quoi.
Si on en sort, comme si on tentaculaire, oui, c'est ça. Moi, j'aime bien les villes. J'avais fait un film comme ça aussi. Je trouve que quand on confronte le portrait de quelqu'un et le portrait d'une ville comme ça, est-ce que vous êtes parti plutôt, c'est le personnage que vous avez, de Félicité que vous avez voulu lancer dans cette ville, vous êtes parti plutôt de la ville, essayer de voir quel était le meilleur personnage et la meilleure histoire pour circuler dedans?
Mais c'est vraiment un film qu'on a fait avec la ville le plus possible dans les décors naturels, absolument, et en mettant en place un système qui permettait d'accueillir tout ce qui pouvait se passer, et les accidents étaient vraiment les bienvenus.
Alors, Kinshasa est magnifiquement filmé, me disait Atmen. C'est la rubrique Un film, un fan. Atmen Kilib, qui a vu le film hier, qui est arrivé tout enthousiaste ce matin.
Oui, parce que votre film, c'est une vraie, véritable histoire d'amour. Bon, le canevas, il est très chaplinesque. Son fils a un accident de moto à Félicité. Et donc, elle va essayer d'aller collecter cet argent en chantant dans ces cabarets-là. Bon, c'est tout ça, c'est un prétexte pour, je trouve, c'est un affranchissement. Elle va passer, je trouve, de statut de maman à statut de femme, parce qu'elle s'affranchit de ses amis, de sa famille. Et c'est très, très beau, parce qu'elle est tout le temps en marche. Et moi, j'ai envie de dire, la façon dont vous l'avez filmée est une véritable déclaration, parce que vous la filmez de dos. Moi, je suis resté bloqué sur ce coup, c'est cette boucle d'oreille dans laquelle vous l'accompagnez comme ça longtemps et qui raconte à la fois son parcours, son combat, cette ville et l'Afrique. Voilà. Moi, je suis resté là-dessus bloqué dans cette lumière incroyable de ces lames de rasoir qui sortent de sa voix quand elle chante dans le bar le soir. On voit tout à coup où elle chante par plaisir, elle chante par nécessité, elle chante par désespoir. À la fin, je peux pas le résumer et mettre ce film dans une case où je dis voilà, j'ai aimé ça. J'étais complètement emporté par votre film et par l'atmosphère et l'histoire qu'il racontait. Voilà.
Il faut que vous finissiez par une question, Atmatino Alain, après, à part vous dire merci. Mais...
Je n'ai pas de question. Moi, un film, je dis ce que j'ai vu. Voilà, je vais pas.
Ça vous va, Alain?
Ça me va plutôt bien.
Et vous, Véro, est-ce que vous vous reconnaissez dans le portrait qu'Atmen a dressé de votre personnage? Il faut que vous approchiez du micro.
C'est une question où...
Voilà. Non, est-ce que vous reconnaissez dans ce portrait, dans cette femme, dans ce qu'il en a dit?
Oui, c'est dans ce qu'il a dit, quoi.
Oui.
Ben oui.
Vous vivez à Paris ou vous vivez à Kinshasa?
À Kinshasa.
Et donc vous connaissiez les endroits, c'est une vie que vous connaissiez, la vie de ce personnage-là, les endroits où elle va? Ça correspond. Quand vous avez vu le film, parce que c'est jamais le film qu'on lit d'abord, dans ton scénario, et qu'on voit après, c'est jamais le même. Est-ce que dans le film, vous reconnaissez les nuits de Kinshasa?
Ben oui, Kinshasa, c'est toujours comme ça, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, je vous invite à faire un tour là-bas.
Mais oui.
C'est chaud là-bas, c'est émouvant, quoi. Donc, Kinshasa, la vie, c'est...
Alors, je vais vous demander de faire un peu publicité pour la ville de Kinshasa sur un fond musical de comité touristique. Le comité touristique de Kinshasa présente Véro Tshadabeya qui nous dit « Venez dans les nuits de Kinshasa ». À vous.
Venez dans les nuits de Kinshasa. Vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas ennuyés. Kinshasa, la nuit, c'est fort, c'est fou et c'est électrique, quoi. Je vous invite tous, venez vivre le bon moment.
Alors venez voir le film d'abord qui sort aujourd'hui, bien sûr. Véro, plusieurs arguments. Les nuits de Kinshasa, qu'est-ce qu'on y mange dans ces nuits de Kinshasa? Qu'est-ce qu'on mange?
En fait, il y a un peu de tout. Il y a la chikwang.
C'est quoi?
C'est les maniocs.
Oui.
Il y a les poulets.
On y danse sur quoi? Sur quels sons on y danse? Alors, quels sont les sons en ce moment qui marchent bien? Ouais, quels sont les sons, les musiques qui en ce moment cartonnent?
Ah, là-bas, c'est pas les musiques comme ça. Hein.
Non, mais là, c'est pour notre truc publicitaire. C'est payé par le ministère de la Publicité et du Tourisme de RDC qui nous a envoyé ça. Mais on danse sur quoi en ce moment?
On est sur les trucs. Je peux citer.
Oui, bien sûr, on peut dire les noms, bien sûr.
Ah, pour le moment, il y a Kofi.
Oui.
Olumide. Il y a y a Fally, il y a Robino.
Oui.
Oui, y a, c'est chaud, hein, c'est pas le, comme ça comme Félicité, quoi.
Et est-ce qu'on peut passer la nuit et la journée? Est-ce qu'on peut avoir et les nuits et les jours ou c'est pas les mêmes personnes?
Ça peut se rencontrer.
Ça peut se rencontrer.
Ouais.
C'est une activité délirante, Alain, par rapport à Paris, par exemple, ou à des villes européennes, quoi. Je ne veux pas dire les lieux communs sur les énergies des villes africaines, mais quand même, il y a quand même certaines villes où c'est flagrant.
La nuit, elle est habitée de partout, quoi. C'est une grosse ville, Kinshasa, c'est 13 millions d'habitants, et un très gros quartier qui s'appelle Matongé, dans lequel les bars sont côte à côte, où il y a des enceintes de 10 mètres de haut qui crachent toutes plus fortes les unes que les autres. Une musique qui, de temps en temps, fait lever les gens qui se mettent à chanter.
Qui se relèvent du sommeil.
Qui se lèvent de leur chaise et oui. Qui se mettent à chanter parce qu'il y a une espèce de culture musicale très belle, très forte. Un amour de la langue, des mots, de chanter l'amour de mille façons différentes. Et voilà, au milieu de ce brouhaha, il y a souvent quelqu'un au milieu, qui se met debout et reprend les paroles.
Batman.
Pour revenir sur le film qui est un portrait de femme, un peu comme Mama Roma ou ce qu'on a vu dans Les Grands, est-ce que pour vous l'Afrique c'est une femme?
Oula,
oula, oui.
Oula, vache. Là tu vas fort.
Non mais parce que...
Ah non mais je dis pas que c'est pas bien, on aimait de laisser à Alain parce que forcément deux secondes. Ouais.
Un café encore.
C'est costaud.
Ce qui ressort
oui,
en fait.
Oui, non, on a compris, mais c'est costaud ton truc.
Ouais, bah...
Laisse-nous deux secondes. Alain, est-ce que vous êtes prêt à répondre
plus
à cette
comme
question
tout à l'heure,
Mais je ne sais pas si l'Afrique est une femme. En tout cas, ce film, il y a une espèce de... C'est un film sur la dignité du combat, quoi. C'est-à-dire que il y a une grosse partie de la population mondiale pour laquelle, effectivement, les choses les plus simples, c'est-à-dire réussir à manger, avoir un toit ou offrir la santé
soigner.
À ses enfants ou avoir de l'éducation, c'est loin d'être... C'est pas un acquis, mais c'est un combat quotidien. Et c'est finalement la vie la plus répandue et c'est celle qui est presque la moins représentée. Ce qui fait qu'en fait, on est tous placés comme ça en vitrine d'un monde auquel on n'a pas accès, ce qui crée des frustrations, une détestation de soi et cette espèce d'idée mensongère que la vie commencera après, quand on se sera extirpé. On devient tous finalement des espèces de moteurs d'un monde libéral qui fonctionne comme ça, là, c'est-à-dire que, où on serait tous censés être extraits de nous-mêmes pour commencer à vivre. C'est une espèce d'horreur et... Ce film essaye un petit peu de replacer le curseur là où c'est, quoi, là où on vit, et se dire qu'on est beau là aussi, quoi, que ces vies sont belles en soi, que ce n'est pas seulement des vies miséreuses et qu'elles méritent d'être vécues.
Mais c'est partout, c'est beau ce que vous dites, parce que je trouve que c'est une vie qu'on vit partout, de se dire pour le moment, je ne suis pas encore dans ma vie, j'attends, ça va commencer, ce n'est pas encore maintenant, alors que c'est en ce moment qu'on est en train de vivre.
Mais la perte ou le gain de dignité est plus fort dans les pays africains. Vous auriez pu raconter la même histoire en France, et elle qui galère dans les boulots, peut-être en étant migrante. Là-bas, justement, où la misère est, on disait, est plus belle au soleil, c'est encore plus dur pour elle. Parce que dans son propre pays, on sent qu'elle est surtout entourée d'hommes qui sont presque, pour moi, que des enfants. On a l'impression que c'est que des mômes qui n'arrêtent pas de boire, qui n'arrêtent rien. Alors qu'elle est la seule qui avance, qui se bat, et c'est incroyable. C'est pour ça que je vais vous demander si l'Afrique est une femme.
On avait compris.
Ouais, mais
comment avez-vous rencontré votre actrice Vérocha Dabeya?
Elle est venue au casting. Elle est venue et elle était très différente physiquement de ce que j'imaginais. Et donc, je l'ai d'abord fait essayer un petit rôle en faisant des impros. Et elle envoyait tellement. Bon, ça m'a pris 6 mois pour admettre que c'était elle, quoi, puisque voilà, il fallait que je me fasse à l'idée. Mais à chaque fois que je revoyais les images, alors que je venais toujours en me disant cette fois-ci, je la vire. elle a pris le film, quoi. Et j'ai rarement rencontré une puissance d'interprétation aussi forte, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le sentiez, vous, ça, en jouant ou pendant les essais? Vous sentiez, vous étiez dedans, Véro? Vous ne voulez pas prendre le micro, vous voulez crier votre message. Alors très bien, partons. Parlons
non, mais
tous
c'est,
les deux là,
c'est bien.
Sans le micro, on se met là avec...
Non mais c'est bien parce qu'elle est, elle est oui. Le personnage, elle est...
Mais faut nous la paix, laisse-la parler.
Non, écoute...
même si le silence, ça va. Bon, Véro, qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, de cette aventure, de ce film-là? Vous en êtes sorti comment?
En fait, avant, j'étais pas sûre de moi-même.
Je vous tiens, oui.
J'étais pas sûre de moi-même, mais je m'attendais pas que ça allait faire un boom comme ça. Tu vois, avant, quand on était pendant le tournage, Alain toujours me disait « recommence ». Et du tout, j'ai perdu confiance, quoi. Et là, je me disais que je suis nulle, quoi. Parce que quand je fais quelque chose 6 fois, 7 fois, recommence, au final, je me dis que...
C'est un manipulateur, c'est un monstre, c'est un Maurice Bialat. Il vous torturait pour vous faire pleurer.
franchement.
Il a bousculé.
Et je suis étonné qu'il me dise que j'ai dégagé, quoi. Là, ça m'étonne. Parce que pendant le tournage, il m'a jamais dit ça.
Et maintenant, vous continuez là? Vous avez des castings, vous avez joué depuis ou pas?
Non, non, c'était mon premier rôle.
Vous avez envie de continuer?
Ah oui, bien sûr.
Vous êtes allé, je sais qu'au FESPACO, ça a cartonné le film, là, au grand festival de cinéma de Ouaga qu'il y avait il y a quelques semaines. Vous y êtes allé?
Oui,
ça vous a touché, l'accueil du film?
Vraiment, fort. C'était fort, quoi.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les gens, à vous, personnellement, Véro?
En fait, tout le monde voulait me voir avec un prix, quoi.
Il est où, le prix? Vous avez tous les prix, et puis il était à Berlin. Mais on vous souhaite le meilleur, Véro. Donc, il sort aujourd'hui. Félicité. Allez vraiment le voir, si vous voulez être bouleversé comme Ahmed Khelif.
Et félicité, la façon dont le nom lui est redonné, c'est magnifique. Il y a plein de petites anecdotes dans le film qui sont incroyables.
Merci, Alain Gomez. Merci, Véro Tchadabeya. Et puis, le journal de Tibret, avec 5 minutes de retard. Bonne chance au film, qui est extraordinaire.
Salut. Good luck.
Félicité.
J'aurais bien voulu quand même avoir la réponse à la question d'Atman quand même, c'était intéressant. Des milliers de personnes ont manifesté hier en Guyane. Il s'agissait des plus grosses manifestations jamais organisées sur le territoire, selon les autorités préfectorales. Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont attendus sur place aujourd'hui. Après François Fillon et Marc Joulot, c'était au tour de Pénélope Fillon. Après 13 heures d'audition, la femme du candidat de la droite à la présidentielle a été mise en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics. Notamment, elle doit répondre d'accusations d'emploi fictif. Ancien préfet de l'Île-de-France, directeur de cabinet de Manuel Valls, Jean Daubigny, sera jugé pour fraude fiscale. Il est soupçonné de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014 pour un montant de 190 000 euros. Ce n'est pas un ralliement, mais enfin ça y ressemble quand même. Manuel Valls votera Macron à la présidentielle dès le premier tour. Meilleure réponse, selon lui, contre Le Pen. Comme François Fillon et Emmanuel Macron avant lui, Benoît Hamon a rencontré Angela Merkel hier à Berlin. À l'issue de la rencontre avec la chancelière allemande, le candidat socialiste à la présidentielle a souligné les convergences avec la dirigeante conservatrice concernant la politique de défense et la transition énergétique. Côté des accords, Benoît Hamon a notamment cité les politiques budgétaires européennes. Prochain débat présidentiel le 4 avril sur BFM TV. Contrairement au débat de TF1 le 20 mars dernier, tous les candidats seront cette fois sur le plateau. Un troisième et ultime débat est envisagé sur France 2 le 20 avril, soit 3 jours avant le premier tour. Un contexte inacceptable pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a fait savoir qu'il ne participerait pas à ce dernier débat compte tenu de son programme d'activité, de la construction de son programme. Même réticence chez Emmanuel Macron. Le candidat du Mouvement En Marche a émis des réserves sur un débat de dernière minute. Pour le moment, France 2 maintient ce débat. Le Parlement de l'Écosse a donné son feu vert hier à Nicolas Sturgeon pour demander à Londres un nouveau référendum d'indépendance. La première ministre écossaise peut à présent en faire la demande officielle auprès des autorités britanniques. La première ministre britannique a fait savoir déjà qu'elle jugeait que ce n'était pas le bon moment pour un nouveau référendum en Écosse. Theresa May qui a signé par ailleurs hier soir la lettre qui déclenche officiellement le Brexit. Donald Trump, lui, a signé un décret ordonnant un réexamen de la mesure phare de Barack Obama sur le climat, le Clean Power Plan, qui impose aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de CO2 de 32% d'ici à 2030. Par rapport à 2005. Des images satellites montrent des préparatifs en vue d'un nouveau test nucléaire du côté de la Corée du Nord. Un coup de tonnerre à Abidjan, poursuivi pour crime contre l'humanité. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été jugée non coupable et acquittée à la majorité des membres du jury. Et puis l'équipe de France de football, qui n'avait plus perdu depuis la finale de l'Euro, s'est inclinée 2-0 hier soir au Stade de France face à l'Espagne. Le recours à la vidéo a permis d'annuler un but de Griezmann, qui était hors-jeu, et de valider un but espagnol sur un hors-jeu imaginaire.
Attendez, je suis avec Bernard Bilou, l'homme qui poste toutes les petites vidéos de chats sur Internet. C'est lui, Bernard.
Bonsoir.
Bernard, plus de 100 millions de vues, c'est une folie. Le dernier en date, rappelez-vous, c'est Petit Chat Mignon jouant avec une petite pelote de laine sur un canapé. Bernard Bilou, d'où viennent toutes ces images de chats?
Je sais pas, je me balade, je vois des chats et je les prends en vidéo et voilà.
C'est très sympa et ça nous fait beaucoup beaucoup de bien à nous autres, les Français, les êtres humains en général. Quoi de plus mignon qu'un chat?
Je sais pas, peut-être un chaton.
Voilà. Alors Bernard Bilou, il faut rappeler que vous-même dans la vie, vous n'aimez pas tellement les chats, hein?
Non.
Mais vous vous êtes aperçu que ça faisait des clics.
Oui, et comme ça, je peux payer à ma femme des sous-vêtements.
Des sous-vêtements sexy. On y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. On rejoint Jack Simon dans la rue. Merci Bernard Bilou, un beau témoignage.
C'est une belle ville. Mais il faut que ce soit comme les gens qui soient un peu plus propres, quoi. Voilà. Parce que, comme vous voyez, les quais de la dorade, c'est vraiment sale.
La dorade, le poisson?
Non, des bouteilles. Oui? Eh bien, des bouteilles, c'est-à-dire le pinard, les bières, vous avez de tout, vous trouvez de tout.
Mais oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Oui, on va y revenir sur ce problème de propreté des quais Des quais de la Dorade, là, à Toulouse. Est-ce que vous pensez que c'est un quai qui a été plus maltraité au niveau hygiène que d'autres endroits de Toulouse ?
Oui, c'est maltraité.
Pourquoi spécialement le quai de la Dorade ? Pourquoi est-ce qu'il attire le détritus ?
Oui. Joseph !
Qu'est-ce qu'il y a avec c'est Monsieur Joseph ?
Joseph, et je lui ai dit, parce que quand on rencontre les gens dans la ville, comme ça, on a un casque sur les oreilles pour qu'ils vous entendent. Oui. Et je leur dis toujours de garder une oreille avec moi.
Oui.
Et là, c'est bon, il l'a.
Donc, voilà. Joseph, vous lui avez dit que c'était à la radio ou pas ?
Oui.
Bon. Alors, Joseph, moi, je vous suis dans votre combat pour la propreté des rues de Toulouse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Que ce soit mieux entretenu.
Et vous pensez que c'est un truc citoyen ? On doit chacun ramasser tant une petite bouteille vide qu'une petite crotte, un petit papier journal, ou bien appeler des employés municipaux ?
Non, que les gens, on a, comment on appelle ça,
des volontaires
à crotte. Bon, il y a des gens qui prennent la poche, qui le ramassent, mais il y en a qui laissent faire.
Qui laissent faire leurs chiens ou autres, parce que c'est pas toujours des chiens, c'est parfois d'autres.
Il y a des humains aussi.
Des humains qui sont tenus en laisse et qui se laissent aller un petit peu.
Non, pas en laisse.
Non, pardon.
Non.
Écoutez, votre combat, il est noble, il est digne, il est droit, cher monsieur Joseph. Et oui. Je vais mettre tout de suite des équipes sur le coup. En tout cas, si vous tenez des gens ou des chiens en laisse, faites attention. C'est ça le message ?
Oui. Comment ?
Donc on envoie ce message aujourd'hui aux auditeurs, quoi.
Si vous voulez.
Oui.
Eh ben, en tout cas, nous, ici, on est sur les bords de la Garonne. Oui. C'est super beau et on est en train de parler de cette belle Toulouse. Et on est passé sur les bouteilles et sur autre chose.
Oui, donc mon combat, ça ne vous a pas intéressé, Jacques Souvent. Vous n'avez pas senti que mon militantisme...
Ah, écoutez, si, il y a à peu près 272 000 bouteilles dans le camion, là.
Oui, mais enfin, je ne vous sens pas avec moi, là, dans cette histoire de militantisme, non.
Ah, c'est-à-dire qu'on est, entre les deux, on est entre deux eaux, quoi.
Bon, allez boire un coup avec Joseph, on vous retrouve tout de suite après. Merci, les gars.
Bon, il y a beaucoup dans le camion.
On va écouter un peu de pub alors.
Oui.
D'accord.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Tu vois de quenelle ?
Yes.
Quenelle de brochet, so it's like a fish. Mais c'est très mou when you...
A chicken.
Poulet. Ah, des quenelles de poulet, il a mangé. Pardon, je...
C'est lyonnais.
Pardon, non mais c'est lyonnais la quenelle de... Oui, mais c'est branché. Je suis avec Juan Thompson, pour son magnifique livre Fils de Gonzo, puisque c'est un livre sur son enfance avec Hunter Thompson, l'auteur de Las Vegas Parano, entre autres, le créateur de tout un type de journaliste dont cette maison est un peu aussi l'héritière. Et vous êtes, Juan, it's very chic because you have your own translator. Yeah, what's the name of your translator?
It's Marguerite Capel.
Marguerite Capel. In a lot of stories, there is a writer, il y a un écrivain dans beaucoup d'histoires, and he meets a translator, and they fall in love, and they marry. Et il tombe amoureux, il se marie. Is it going like that? Parce que c'est Paris, c'est ma traductrice, non.
We've only just met.
Vous venez de nous rencontrer, c'est le tout début de cette histoire. Cher Thomas Baumgartner,
oui, Edouard.
On a été très, très touchés, de nous qui sommes des grands, grands fans de Hunter Thompson.
Absolument.
De découvrir ce livre sur cette enfance et le style, parce que it's not only the story, it's your style, it's your way of writing. C'est aussi sa façon d'écrire, c'est son style qui nous a touché de Juan Thompson.
Absolument, il y a quelques légendes contemporaines dans le journalisme et Hunter Thompson en fait partie. Il a inventé une forme de journalisme qu'on appelle le Gonzo journalisme, d'où ce titre, Fils de Gonzo, de ce livre. Dans ce Gonzo journalisme, l'auteur est dans le cadre, il décale le cadre en même temps et puis il assume sa part de fiction, sa subjectivité complète. C'est ça aussi, hein, en quelque sorte, en quelques mots. Le Gonzo journalisme, Hunter Thompson, effectivement, c'est Las Vegas Parano, qui avait été adapté au cinéma par Terry Gilliam. Et dans le rôle de Thompson, c'était Johnny Depp.
C'était Johnny Depp qui était très ami. Johnny Depp, who was a very close father, qui était très, très proche de votre père. Vous vous rappelez de soirées aussi avec Johnny Depp ? C'est mon côté un peu voici, gossip.
Yes. Yes, yes. He actually spent... three or four months.
Oui, il a passé 3 ou 4 mois
living with Hunter, in the basement,
à vivre avec nous, en fait. Il vivait dans le sous-sol et puis il suivait Hunter partout. Il s'habillait de la même façon. Il sortait en ville.
Oui, là,
il s'est rasé la tête, exactement.
C'est la tête d'Hunter Thompson qui s'est faite pour ceux qui ont vu le film. Donc, Juan Thompson, est-ce que pour nous, il y a toute une panoplie hein, ça va avec quand on voit un Tom Thompson, les armes à feu, l'alcool, la drogue, l'énergie, la colère. Donc c'est pour ça que ça, c'est très étonnant. On avait du mal à l'imaginer comme un homme domestique à la maison. Et on s'aperçoit que vous aussi en tant qu'enfant.
Yes, that was.
Oui, tout à fait.
Being a father and a family man was not.
Être un père, être un homme en famille, c'était pas sa priorité.
And he was not suited to it. He was a writer.
Et il n'était pas fait pour ça. Il était écrivain. C'était ça qui comptait le plus pour lui dans sa vie.
Family was really something for, you know, for.
La famille, c'était quelque chose dont les femmes devaient s'occuper.
Mais il n'y a aucune colère, je trouve qu'il n'y a pas de revanche du tout. Ça m'a beaucoup touché dans ce livre. Ce n'est pas du tout un livre de revanche, du genre, voilà l'homme public que vous avez aimé, ben, dans le privé, il était moins aimable. Il n'y a pas cet aspect-là, je trouve ça très, très bouleversant.
Je suis ravie que
ce message-là soit passé, mais ça a été un long processus. Ça m'a pris des années. J'ai été très en colère longtemps contre lui, comme le livre le raconte, notamment quand j'étais adolescent. Mais le plus important pour moi, c'était de finir par réussir à avoir une relation avec lui, accepter qui il était, comment il était. Et trouver une façon de créer un lien, c'était aussi très important pour moi, c'est que, en dépit de ses échecs en tant que père, c'était extrêmement important pour lui d'avoir un lien avec moi. Donc on a toujours continué à essayer. Et on a fini par trouver une forme d'arrangement. En tirant à l'arme à feu, en passant un peu de temps à nettoyer nos armes à feu.
Oui, c'est très important pour vous de lui montrer que vous êtes aussi un homme parce que vous savez tirer avec votre flingue. Il y a des scènes où, quand il vous voit faire exploser des trucs avec votre gun, là, il dit « Ah, c'est vraiment mon fils ». J'adore ce truc de traduction en direct à la radio. Je trouve ça extrêmement chic. Hein, je trouve ça très élégant. Oui, c'est raison, mais on dirait que c'est l'ONU un peu. Et maintenant, le délégué d'Arabie Saoudite. Non, pas celui-là. Thomas Baumgartner.
Oui, non, effectivement, les armes à feu, il y a les images, on va dire, les clichés qu'on peut avoir sur Hunter Thompson ne sont pas toujours faux. Les armes à feu, cette colère dont vous parliez, Edouard, à l'instant, l'alcool, évidemment, c'est présent. Et ça se traduit pour vous, Juan Thompson, dans votre regard d'adolescent, d'enfant, puisque c'est un livre qui commence au moment de votre naissance, par un mot que vous dites, c'est-à-dire c'est la peur. Vous avez vécu une enfance où vous aviez peur de votre père. Et ça, vous le dites très clairement.
Yes. He was a larger than life figure. He was.
C'était un personnage plus grand que nature.
He was physically. He was. You know. He was.
Physiquement.
He was a big man.
Oui, parce que vous êtes le fils de Thompson. Vous êtes aussi le fils d'Orson Welles et de Gérard Depardieu. J'imagine les autres enfants. Non, mais on ne peut pas traduire ces plaisanteries. Si tu
veux, mais vous les faites.
Le temps de traduire. Time of translating. Sorry, pardon. Je vous ai interrompu sur la peur. Pardon.
When he was angry, it was.
Quand il était en colère, c'était complètement explosif.
And so, as a child, it was quite
donc,
terrifying.
Quand j'étais enfant, c'était terrifiant.
He never hit me.
Il ne m'a jamais frappé. Rien de ce genre, mais l'intensité de sa colère était extrêmement effrayante.
Et en même temps, vous dites, il reste protecteur. Et à un moment donné, donc, vos parents se séparent à la fin des années 70, au début des années 80, et vous dites qu'avec un compagnon de votre mère, vous preniez du LSD. Vous avez 14 ans. Et vous dites, s'il apprenait que je prenais du LSD, il n'en reviendrait pas et ça le fâcherait. Donc, il y a cette ambiguïté aussi.
Je
crois qu'il n'a jamais eu envie que je suive sa voie, en particulier en termes de mode de vie. Qu'en soit la raison, lui, il a choisi cette façon de vivre. Il était alcoolique.
Il
prenait des drogues pour s'amuser, comme une sorte de défi pour voir s'il arrivait à garder le contrôle. Mais il aurait été absolument horrifié si j'avais suivi ses pas. Il y a eu tellement de victimes.
autour de lui.
Couldn't handle it. And I'd say in the
end, il y a tellement de gens qui ne pouvaient pas gérer ces drogues. Et d'ailleurs, au final, lui non plus. Il aurait été horrifié si je lui avais dit « j'ai envie d'être comme toi, papa ».
Alors, ce n'est pas que ça, évidemment. Ce n'est pas que la drogue, l'alcool, les armes à feu. C'est aussi un personnage très central, très entouré, très influent. Beaucoup de gens passaient à la maison. Vous sentiez, c'était aussi un homme de combat. Qu'est-ce que vous, comme enfant, quels sont les combats que vous sentiez les plus importants pour lui dans sa vie d'homme public ?
Vous parlez de son sens de la justice, à un moment donné.
I mean, first and foremost, he was a writer. The
persona of the wild man, Aurel Duke. Le personnage, le type un peu fou. Tout ça, c'est finalement, c'est rien de plus qu'une petite note de bas de page. Ce qui lui comptait le plus à ses yeux, c'était d'être un grand écrivain. Depuis qu'il était adolescent, c'était ça son objectif.
To be a great writer, and I think when he finally found his That unique voice.
Et quand il a fini par trouver cette voix Gonzo, unique, le Gonzo,
it was extremely important to him to use that to.
C'était extrêmement important pour lui de pouvoir utiliser ça pour dire quelque chose d'important. Par exemple, dans Las Vegas Parano et. C'est une critique assez dure de la culture américaine. Et dans son livre sur la campagne électorale américaine, il attaque le président en exercice Nixon de façon extrêmement vive.
Il s'est présenté. Il s'est présenté comme shérif, je crois, le shérif
d'Aspen.
Et puis il aurait été formidable là, avec les années Trump. Ron Thompson, I want you to learn French now. Ça suffit. Hein. Moi, je suis trop avec cette mademoiselle Capelier.
Capelle,
elle est remarquable. On vous donne son téléphone aussi. Si vous êtes chez vous et vous voulez vous faire entendre dans le monde, il faut faire les rockstars. The rockstars, they speak a few. Il faut dire bonjour la France. And then the crowd say, wow! Alors, c'est Ron Thompson, quelques mots en français quand même. If you want the crowd to fait and then to buy the book and then to
petit déjeuner croissant café.
Et moi j'ai mon traducteur en français aussi.
Sound banal.
Café Paris, petit déjeuner croissant, il faut.
I am my own translator now.
Il a son propre translateur.
On a beaucoup aimé le livre Fils de Gonzo.
Mais qu'est-ce que veut dire Gonzo, la question ?
Le Gonzo, comment traduire le Gonzo ? C'est ce journaliste qui vous met au centre de l'histoire. C'est raconté à partir de soi. C'est nous dans l'histoire, non ? Attendez, on répond.
The way I think of Gonzo is it has nothing to do with the lifestyle.
Ça n'a rien à voir avec le mode de vie.
It's not about losing control.
Ça ne veut pas dire perte de contrôle.
I think Fear and Loathing in Las Vegas is an amazing
Parano,
example of.
C'est un excellent exemple.
Using, you know, exaggeration, some fiction,
un peu de fiction.
Events that might have actually happened.
Des événements qui peut-être se sont réellement produits.
But he basically wrote. He used like a novel form to try to
avec une
convey
forme de roman, essayer de
a more essential truth
de faire passer une vérité plus fondamentale sans avoir à s'en tenir strictement aux faits.
Avec une subjectivité assumée, on pourrait dire, en assumant la mauvaise foi un peu presque aussi. And when I first
accurate in the details was not nearly as important as conveying the overall.
Oui, être précis sur les détails, c'est pas du tout important par rapport à l'idée de vraiment de véhiculer une vérité de façon plus générale.
Et d'ailleurs, Juan Gonzo, dans ce livre, donc dans Fils de Gonzo qui paraît chez Globe, vous dites au début, ce livre sera plein d'inexactitudes, mais sera profondément vrai, ce qui est un peu aussi la définition de l'art de votre père. C'est un livre de réconciliation avec son père, c'est aussi une manière de réhabilitation, en tout cas d'aller au-delà des clichés concernant une légende du journalisme qui s'appelait Hunter Thompson, et vous êtes son fils. Merci beaucoup
d'être
passé par ici.
Merci d'être venu, et maintenant, on va s'occuper de vous. L'interprète va vous emmener Folie, Bergère, Moulin Rouge, des têtes de veau, sauce ravigote, vous fouillez, vous venez danser chez l'ami Louis de Valterre. Merci, cher. Merci. Thank you very much. Merci.
Thank you.
Merci
beaucoup. Près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Dont celle de Thierry Paret pour le journal de 8h01.
Nous bon qu'est ça, pouvait-on lire hier sur de nombreux calicots, ça suffit hein, en créole guyanais, voilà c'est la traduction. Des milliers de personnes ont manifesté hier en Guyane, notamment à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Il s'agissait des plus grosses manifestations jamais organisées sur le territoire, selon les autorités préfectorales. Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont attendus sur place aujourd'hui. Après François Fillon et Marc Joulot, c'est au tour de Pénélope Fillon. Après 13 heures d'audition, la femme du candidat de la droite à la présidentielle a été mise en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics notamment. Elle doit répondre de l'accusation emploi fictif. Ancien préfet de l'Île-de-France, directeur de cabinet de Manuel Valls, Jean Daubigny, sera jugé pour fraude fiscale. Il est soupçonné de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014 pour 190 000 euros. Ce n'est pas un ralliement, mais enfin ça y ressemble quand même. Manuel Valls votera Macron à la présidentielle dès le premier tour. Meilleure réponse, selon lui, contre Le Pen. Déclaration de Benoît Hamon dans le même temps. Toutes les semaines est organisé un événement pour m'affaiblir. Comme François Fillon et Emmanuel Macron avant lui, Benoît Hamon a rencontré Angela Merkel hier à Berlin. À l'issue de la rencontre avec la chancelière allemande, le candidat socialiste à la présidentielle a souligné les convergence avec la dirigeante conservatrice concernant la politique de défense et la transition énergétique. Côté des accords, Benoît Hamon a notamment cité les politiques budgétaires européennes. Le Parlement de l'Écosse a donné son feu vert à Nicola Sturgeon pour demander à Londres un nouveau référendum d'indépendance. La première ministre écossaise peut à présent en faire la demande officielle auprès des autorités britanniques. Rappelons que lors du précédent référendum en 2014, les Écossais avaient voté à 55% contre la sortie du Royaume-Uni. La première ministre britannique a déjà fait savoir qu'elle jugeait que ce n'était pas le bon moment pour un nouveau référendum. En Écosse, Theresa May qui a signé par ailleurs hier soir la lettre qui déclenche officiellement le Brexit. Donald Trump, lui, a signé un décret ordonnant un réexamen de la mesure phare de Barack Obama sur le climat, le Clean Power Plan, qui impose aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de CO2 de 32% d'ici à 2030 par rapport à 2005. Des images satellites montrent des préparatifs en vue d'un nouveau test nucléaire en Corée du Nord. Un coup de tonnerre à Abidjan, poursuivi pour crime contre l'humanité. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été jugée non coupable et acquittée à la majorité des membres du jury. L'épouse de l'ancien chef d'État reste toutefois derrière les barreaux, puisqu'elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les buralistes lancent leur propre cigarette. La Confédération des buralistes a déposé la marque LCB. C'est une surprise, hein. Un partenaire la produira, cette cigarette, en Bulgarie, avec du tabac français. Ces nouvelles cigarettes seront commercialisées dans les toutes prochaines semaines. Vainqueur du Paraguay 2-3-0, le Brésil est le premier pays qualifié pour le mondial de l'an prochain. Dans le même groupe, l'Argentine a perdu 2-0 en Bolivie et ça s'annonce très mal pour les Argentins. Et puis l'équipe de France de football, c'était un match amical qui n'avait plus perdu depuis la finale de l'Euro, s'est incliné 2-0 hier soir au Stade de France face à l'Espagne. Le recours à la vidéo a permis d'annuler un but de Griezmann qui était hors-jeu et de valider un but espagnol sur un hors-jeu qui lui était imaginaire.
Voilà, vous voyez, tout ça va vers la réconciliation. C'est comme en Côte d'Ivoire, vous dites coup de tonnerre. Non, c'est la réconciliation, c'est une main tendue de Ouattara aussi. Lisez mon livre. La météo de Tito.
Nuages noirs de Brest à Lille, petit normal dans le milieu. Et ailleurs, il y aura soleil, 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 soleil. Allez, allez, allez. Alors aujourd'hui, on fête les Gladys, les Gladus, les Glades, les Glados, les Gladas. Enfin, il y en a plein comme ça. Les températures, elles sont toutes mignonnes. À Jeun, il fera de 6 à 22. De Avignon, de 8 à 23. Bordeaux, de 8 à 23. Brest, de 11 à 15. Corté, de 9 à 19. Évreux, de 9 à 19. Limoges, de 7 à 21. Marseille, de 8 à 20. Metz, de 7 à 18. Montpellier, de 9 à 23. Paris, de 9 à 19. Poitiers, de 7 à 20. Reims, de 8 à 18. Saint-Étienne, de 5 à 18. Brazzaville, de 23 à 21. La 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 la.
Merci Tito. Autant des Gladys, on en connaît, les Glades et Glados, j'en fréquente.
Écoute, c'est le nom qui sort lorsqu'on parle un petit peu, un tout petit peu.
Si vous appelez Glados, appelez maintenant ou taisez-vous pour toujours.
Il y en a.
Les rues de Toulouse.
Pour muscler les mâchoires, qu'est-ce qui est précisément pour faire comment alors?
Alors, pour les gens qui sortent de rééducation ou qui sont en rééducation après des interventions chirurgicales, on peut mettre la langue derrière les dents d'en bas et essayer de parler. Et ça muscle toute la mâchoire sur le côté et la langue.
Ça muscle la langue aussi?
Oui, un petit peu. Parce qu'il y en a qui ont perdu l'usage d'une partie de leur langue. On peut voir sur certaines opérations.
Donc si on dit Radio Nova avec la langue sur le... La...
Vous allez voir, ça, si vous le dites à force, ça va forcer sur votre fond de langue, sur l'arrière là. Ouais.
Dites-le pour voir Radio Nova.
Radio Nova. Ouais.
On est... Bonjour madame, on est dans un hôpital là, on est où?
Ben là, on est en pleine rue.
Oui.
Je me suis fait arrêter alors que j'allais en prépa d'orthophonie.
Oui.
Pour mes cours. Et du coup, voilà, du coup, je réponds à une de ces questions de ce
c'est
que
gentil.
J'ai appris.
C'est tout à fait gentil de votre part. Dis donc, c'est votre premier cours d'orthophonie là à Toulouse, mais vous êtes déjà très douée.
Non, c'est pas mon premier cours. On travaille depuis 6 mois. Là,
ah,
déjà.
Pardon, j'ai entendu premier cours. C'est moi. Parce qu'on peut aussi rééduquer l'oreille, ça me ferait du bien. Donc là, vous êtes étudiante en orthophonie.
Oui.
Mais, et vous commencez aussi à côté à pratiquer?
Non, d'abord, il faut passer un concours.
Oui.
Donc là, moi, je prépare le concours, mais on nous apprend des choses sur le métier, sur d'autres... il faut savoir plein de choses. Et après le concours, on peut avoir, à partir de la deuxième année, je crois, des stages en école pour côtoyer les enfants, ou alors, à partir de la troisième année, faire des stages... avec des orthophonistes. Alors, ou
c'est
un hôpital.
Quoi, comment on définirait d'une façon simple l'orthophonie?
L'orthophonie, ça permet d'aider les gens, à, par exemple ceux qui ont des problèmes à s'exprimer, à pouvoir s'intégrer dans des métiers, ou alors ça permet à des enfants de pouvoir mieux lire, mieux écrire, ou alors encore ça permet à des gens, après certaines opérations, de pouvoir reprendre une vie normale et de pouvoir se réintégrer à la société.
D'accord, donc on part de la bouche, hein, c'est de se réhabituer
ouais.
Ou de l'oreille aussi.
C'est lié. Oui, c'est lié, oui. Après, c'est dans les ces deux sens qui sont très importants, donc je pense que c'est vraiment lié. Si on ne s'entend pas parler, on ne peut pas savoir si on a un problème, par exemple, de déglutition ou... Si on a un cheveu sur la langue, comme vous dites, non, on ne peut pas le savoir. Du coup, c'est important aussi de faire des tests auditifs pour voir s'il n'y a pas de problème sur ça.
Est-ce qu'il y a une technique pour enlever les cheveux sur la langue ou c'est pas possible, c'est pour la vie?
C'est gracieux, un cheveu sur la langue, c'est bien.
Je pense qu'il y a une technique, mais je ne peux pas vous dire, ça je n'ai pas encore appris, donc je ne préfère pas dire de bêtises et laisser ça aux professionnels.
Il faut peut-être enlever les cheveux, tout simplement.
Est-ce qu'on peut développer son cheveu, l'avoir un peu plus long, l'avoir un peu plus...
Oui, sympa.
Et dites-moi, est-ce que par exemple, Jacques Souvent qui vous parle, il a un petit accent, il ne l'entend pas lui? Comment lui? Est-ce qu'il vaut mieux le lui dire? Il faut qu'il le garde? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Non, ça va.
C'est son chat.
Moi, je pense que j'ai plus d'accent que lui. Alors
ah, ça dépend de quel point de vue on est, quoi, oui.
Non, ça va.
Il parle pointu, un peu.
Oui, c'est vrai. Oui.
Allez, gros bisous, ne lui en voulez pas. Et c'est quelqu'un qui a...
Merci.
Il est un peu pointu, comme ça, c'est pas facile.
Merci.
C'est pas facile pour les autres, vous savez. Pas facile, je peux vous le dire. Hein. Allez,
oui.
Très belle journée.
Merci à vous.
Vous y allez en transport, là? Vous allez comment?
Non, là, je suis juste devant, en fait.
Ah bah alors, oui, ils vous empêchent d'entrer, c'est des gens des radios. Allez, bonne journée, merci. Hein.
Merci, au revoir.
Au revoir, j'aime bien quand on dit longtemps, merci, au revoir, c'est sympa. Gros bisous, hein, des belles journées,
bisous.
Et gros bisous. À la maison aussi, aux voisins et aux copains, à la famille.
Au revoir.
Hein, et la petite santé qui va avec, avec un gros bisou. Une belle journée, un
salut.
Beau mois de mars.
Au revoir.
Et pour avril.
Salut.
Une belle Pâques à tous, un très bel
à
été.
Bientôt.
Gros bisous.
Salut.
Bravo, belle, merci.
Bravo à tous.
Gros bisous à toute l'équipe, à tous les amis, la famille, les parents.
Merci.
Merci. Bisous.
Bisous. Je raccroche. 7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Parce que, en fait, Louise, ça, c'est un serre-tête.
Mm-hmm.
Et ça, c'est parce que t'as une sorte. C'est pas une tenue de princesse, mais c'est un pull en argent.
Oui.
Argenté.
Oui.
C'est du mithril.
C'est comment,
Jean-Noël? C'est du mithril.
C'est du mithril?
Oui, c'est les elfes qui mettent ça.
Non, c'est du. C'est du quoi? C'est de la laine?
C'est de la laine d'argent.
Décris un petit peu ta tenue alors que tu as mis exprès pour la radio.
C'est incroyable, c'est scintillant. Oui. Moi, ça me fait.
J'ai mis une robe.
Bah, t'as mis une robe spéciale quand même, non?
Oui.
Décris-la un petit peu, raconte-nous comment tu as décidé de mettre cette robe aujourd'hui.
Bah, je sais pas, parce que je la mets pas souvent.
D'accord, et tu t'es dit que c'était une occasion un petit peu spéciale aujourd'hui.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui se passait de spécial aujourd'hui?
Je récite une poésie.
Oui, absolument. Et ça nous fait très plaisir que tu aies mis une très belle robe. Alors que Jean-Noël, vous avez une petite robe qui est toute simple.
Moi, j'ai pris juste mon petit débardeur et puis une jupe un peu plissée.
Un peu plissée, mais
qui va jusqu'aux chevilles. Et puis voilà.
Oui, c'est tout simple.
Je n'avais pas envie de trop me montrer.
Une petite jupe de la campagne qui vous va bien.
Trop montrer mes formes.
Et dis-moi, Louise, toi, tu aimes bien dire des poésies alors ou pas? C'est la première fois?
Oui, j'aime bien dire des poésies.
Comment ça se passe à l'école quand on... Montre-moi comment... C'est une maîtresse déjà à l'école ou pas?
Oui, c'est une maîtresse.
Alors, comment elle dit... Qui veut dire sa poésie ou elle désigne quelqu'un?
On doit lever le doigt.
On faut être volontaire, quoi.
Oui.
C'est basé sur le volontariat, comme les sapeurs-pompiers, souvent, tu sais, les pompiers volontaires. Et donc, toi, tu lèves le doigt sur C'est quoi ton poème aujourd'hui, par exemple?
Et un sourire.
Et un sourire de Paul Éluard. Et sur celui-là, tu as été volontaire à l'école? Donc, alors, elle t'a dit, bon, d'accord, Louise, tu montes au tableau. Mm-hmm. Et là, ça se passe comment, alors?
Je récite ma poésie.
Et les autres écoutent?
Si, moi, je voulais la réciter aussi.
Oui, mais après, vous?
Non, mais celle-là.
Ah oui, alors, s'il y a deux enfants qui veulent réciter la même poésie?
Moi, par exemple, je suis à l'école et j'ai dit, moi, je veux la réciter.
On ne peut pas, parce que, en fait, tout le monde doit choisir une poésie en même temps, dans la boîte. Et celui qui a pris la poésie, de toute façon, elle n'est pas en double.
Ah, on tire au
Donc,
sort, en fait.
Donc, il doit prendre une autre.
Chacun a une poésie différente dans la classe. Toute la classe n'apprend pas la même. Toi, tu es tombé sur « et un sourire mm-hmm. ». Et là, tu trouves que les autres ont bien écouté ou moyen?
Bah oui.
Il n'y a pas eu... Il y a certains qui en ont profité pour faire autre chose, quoi.
Non.
Bon, enfin, de toute façon, on a une caméra de vidéosurveillance sur la classe. On vérifiera si tout le monde a... Et là, on va écouter. Donc, « et un sourire » de Paul Éluard. Vous l'avez écouté, Jean-Noël?
Oui. Comment?
Écoutez avec nous.
Je vais écouter. Je vais déployer mes oreilles pour
quand
t'entendre.
Louise.
C'est bon?
Oui.
Okay. Et un sourire. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire. Un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Paul Éluard. 1895-1952.
C'est magnifique, hein, c'est très beau. Ah oui, c'est un très très beau poème. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Merci beaucoup, merci ma chère Louise.
Tu as vraiment une très belle voix.
Tu l'as dit avec beaucoup de conviction. Puisque je l'affirme, c'est bien de dire un poème, puisque je l'affirme. Tu l'affirmes aussi, toi?
Bah oui.
Qu'est-ce que tu voudrais affirmer dans la vie?
Par rapport au monde, par exemple, ou par rapport aux chèvres.
Affirme quelque chose.
J'affirme que je suis bien à Radio Nova, là.
Eh bien, c'est très bien, ma chérie. Je te souhaite une très belle journée. Jean-Noël Mistral, vous avez écouté le poème.
Bonjour.
On va vous recevoir aussi, déjà peut-être bonjour.
Bonjour.
Les gens vous connaissent mal, Jean-Noël Mistral. Je m'aperçois que semaine après semaine, où vous venez à cette émission, on reçoit peu de courriers, peu de lettres. Il y a une sorte de... Il y a une, je dirais, comment dirais-je, une... Il y a comme un interdit, peut-être un complot, peut-être qu'il y a une...
Parce que je représente la sauvagerie,
Vous
de la nature.
Peur, oui. Ça fait peur, l'état sauvage. Hein.
Parce que je suis farouche.
Vous êtes dangereux aussi.
Je suis dangereux pour la civilisation.
Vous êtes une contre-proposition très forte. Vous en êtes conscient de ça?
Mais en réalité, je suis la vraie proposition, puisque je suis les préceptes de la nature.
Mais vous gardez de l'innocence. On dînait avec vous et Jean Lassalle l'autre jour dans les Pyrénées. Et Jean disait, moi ce que j'aime chez Jean-Noël Mistral, c'est vous savez qui vous êtes, mais vous gardez l'innocence de ce que vous êtes.
Ouais, je suis innocent, je suis naïf. Mais j'essaye de rester vierge. De vierge ou vierge.
Oui, ah oui. D'accord. Et vous nourrissez quoi à la fontaine, c'est une gorgée d'eau, une poire.
De temps en temps, je prends des pierres, je les frotte comme ça. Je les appelle par leur prénom. Oui. Je vais voir une fougère.
Quand vous mangez un petit lapin qui court dans la garrigue, vous lui dites pardon.
Je mange pas de lapin, juste.
juste la peau.
Non, juste je l'humecte pour
avoir le goût.
Oui, pour le
sans le tuer. Très bien, voici une belle leçon de vie. On vous écoute dans votre poème. On écoute le poème de Jean-Noël Mistral.
Non.
Vous êtes fatigué.
Tu n'es pas mauvaise herbe. Arrête de pleurer, petite mauvaise herbe. C'est eux qui n'ont rien comprise. Tu devrais être fier de ne leur servir à rien. Ils croient tellement que la terre a été construite pour eux, ces femmes frelins, que tu les défies dans leur jardin de l'étude militaire qui ne voit plus les arcs-en-ciel. Mauvaise herbe, je t'en prie, t'es pas tout seul. Ne te recroqueville pas comme ça sur ta tige. Tu es belle, libre, farouche, comme la jument qui brille. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu voudrais ? Être comme le blé rangé à perte de vue, sans intimité personnelle, sans personnalité, noyé dans la foule de visages répétés à l'infini ? C'est ça que tu voudrais, pauvre folle ? Toi, c'est les oiseaux qui te plantent, c'est le vent qui t'accouche, c'est la rosée qui gigne. Tu sais pourquoi ils ne t'aiment pas ? Car ils ont peur de toi, car tu es celle qui leur percera le museau à tous ces fous. Lorsque, un jour, ils disparaîtront complètement, parce qu'ils sont aussi fous avec eux-mêmes qu'ils le sont avec toi, eh ben, c'est toi qui auras la planète entière pour toi toute seule. Alors, arrête de pleurer. Et tiens, prends ce mouchoir.
Prends ce mouchoir, ce sera ces derniers mots avant que vous rejoigniez la centrale de Fresnes où vous habitez depuis quelques années. Merci Jean-Noël Mistral. Ça t'a plu, Louise ?
Oui, ça lui a plu.
Mais c'est un peu de la triche. Hein.
Pourquoi ?
Parce que toi, tu l'as lu sur ton carnet.
Ouais, d'accord. Ouais, mais
tu la connais pas dans ton cerveau.
La vérité sort toujours de la bouche des enfants.
Merci, à tout
pris au piège.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Voilà, je faisais un petit mot d'excuse pour la maîtresse de Louise, parce qu'elle est en retard. Et voici maintenant Marie Missé, 7h24. 8h24, dis donc.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour Edouard, bonjour Thomas, bonjour Armel, bonjour à vous. La une de quasiment tous les journaux ce matin, eh bien c'est sans surprise le Brexit. 29 mars 2017, le jour où le Royaume-Uni dit adieu à l'Europe, titre le Figaro.
Ah, c'est aujourd'hui que ça commence vraiment là.
Oui, c'est aujourd'hui. La Croix s'inquiète pour les déracinés du Brexit, tant les Français expatriés que les Britanniques qui vivent en Europe. Brexit Day One en anglais pour les Échos qui accompagnent le titre d'une photo du Big Ben dans un grand brouillard qui mime, je crois, hein, les incertitudes à la fois du Royaume-Uni et de l'Europe, alors que commencent donc les négociations qui devraient aboutir à une sortie de l'Union européenne dans 2 ans, avec ou sans accord d'ailleurs, lit-on dans les journaux, alors que Libération utilise le traditionnel Bobby pour dire « vous nous manquez déjà ». Ou pas, écrit en plus petit, et développe dans ses pages 2 scénarios. Un où le Royaume-Uni retrouve sa grandeur impériale, le fameux rêve de l'anglosphère, également développé par le Figaro. Et puis l'autre où le Royaume-Uni, amputé de l'Irlande du Nord et de l'Écosse, reviendrait mendier une Europe où tout le monde parle français, la queue entre les jambes. L'autre sujet qui alimente la presse aujourd'hui, à commencer par Ouest France, c'est la signature par Donald Trump hier d'un tout nouveau décret, celui sur l'indépendance énergétique des États-Unis. Comprendre celui qui, de fait, annule pas mal de décisions de Barack Obama pour le climat et entraîne la destruction aussi de son Clean Power Act qui demandait, entre autres, aux usines thermiques, comprendre à charbon, de réduire de 32% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Or, Donald Trump veut, je cite, du magnifique charbon propre. Dans les faits, si on en croit les journaux, les effets de ce décret de Trump sont avant tout symboliques. D'abord, nous dit Ouest France, parce que le Clean Power Act de Barack Obama était de fait bloqué par la justice qui avait été saisie par une trentaine d'États majoritairement républicains. Ensuite, d'après le docteur James Nostrand, dans Ouest France, parce que si on arrête d'exploiter le charbon aux États-Unis, c'est pas tant à cause des mesures pro-climat, mais parce que la concurrence avec le gaz naturel et les énergies renouvelables est trop rude. Dans la Croix, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, est d'accord. Non seulement on ne fera pas revivre l'industrie du charbon, mais on va réussir, dit-il, à atteindre nos objectifs de réduction des émissions. Il est formel. Les villes et les entreprises vont continuer à être moteurs, même si Washington ne l'est pas. Il est optimiste donc. Reste que ceux qui défendent l'écologie aux États-Unis ont quand même du souci à se faire, puisque rappelle le Figaro, l'actuel dirigeant de l'Agence pour l'environnement, M. Scott Pruitt, a dans le passé attaqué 14 fois en justice cette agence qu'il dirige aujourd'hui. L'article de la toute nouvelle et éphémère revue américaine dont je vous parlais hier en est la preuve. Louise Edrich, écrivaine amérindienne américaine, y raconte comment depuis le 22 février, le camp non violent de Standing Rock, donc, qui luttait contre la construction de la pipeline Keystone, a été vidé. Cette pipeline doit être faite en se creusant sous le Missouri, où une fuite, je cite, pourrait empoisonner l'eau dont dépendent en aval des millions de gens. À la fin de la présidence Obama, des milliers de militants, mais aussi des vétérans de l'armée américaine ou la communauté amérindienne et la plus nombreuse proportionnellement, étaient venues en renfort aux différentes tribus, ce qui réjouit l'auteur. Elle dit « C'était la première fois que de nombreuses personnes qui n'étaient pas indiennes se retrouvaient sur une réserve ou assistaient à une cérémonie Yakota, ce qui est une bonne chose. Plus il y aura des gens pour comprendre que les autochtones ont leur propre rite religieux et leur lieu de vénération, comme l'est la terre de Standing Rock, comparable au cabétédral, pardon, mieux ce sera. » Obama avait par décret empêché la construction de la pipeline, une des dernières décisions de son mandat, et bien une des premières de celui de Trump, fut de lever cette interdiction pour une entreprise dans laquelle il possède évidemment des parts. David Archambault II, qui est le président tribal qui dirigeait un petit peu la lutte, estime que si elle a déjà occasionné des blessés graves, cette lutte contre la pipeline sous Trump se fera meurtrière. La mort de militants écolos n'est d'ailleurs pas du tout une fiction au Brésil, où Le Monde nous racontait le 25 mars que les meurtres de militants écolos se multiplient, tout comme au Honduras, des centaines depuis 2010. Ces derniers temps, les militants assassinés luttaient beaucoup contre l'accaparement des terres. Et puis si vous voulez vous changer les idées tout en continuant à ressentir des frissons d'angoisse, pourquoi ne pas vous diriger vers ces articles de Libé et des Échos qui parlent du tout nouveau rêve d'Elon Musk avec sa nouvelle entreprise Neuralink. Il a une super idée Elon Musk, parce que lui, il veut lutter contre les risques de l'intelligence artificielle. Il prévient contre ça depuis 2013. Du coup, pour lutter contre ça, il aimerait brancher nos cerveaux directement à des machines, histoire d'améliorer nos capacités et de faire de nos cerveaux des cerveaux supérieurs qui ne nous transformeront pas à long terme en chats domestiques des machines. Braintree de PayPal est sur le même créneau. Building 8 de Facebook vient de recruter un ingénieur spécialiste des interfaces cerveau-machine. Et DARPA, l'agence de recherche de l'armée américaine, investit aussi dans le domaine. Un article à lire dans Libé. Les USA entre le passé fantasmé par Trump et le futur rêvé par Musk, un vrai rêve américain.
Avec cette interface cerveau-machine, je retiendrai ce mot-là. Thomas Baumgartner, je vous ai vu prendre une petite note pendant ce que disait Marie Misset.
Oui, c'est les deux mots charbon propre qui m'ont fait réagir. Ça me fait penser à un slogan de Total que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui nous vante un carburant qui nettoie notre moteur kilomètre après kilomètre. Voilà, et c'est des publicités actuelles pour le carburant qui nettoie.
Je vous fais un très gros béco.
Oh, c'est gentil, je peux aussi ?
Oui, ça va être le journal de 8h30.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baer.
Titi Paré, le rappel de 8h30. Oui, c'est Titi Paré, comme il y a Gros Millet Paré qui est son cousin. Qu'est-ce que vous avez à te mettre ?
Non, rien, je vous
ai. Oui, ben alors on est. Pardon, bonjour.
La première ministre britannique Theresa May a signé hier soir la lettre qui déclenche officiellement le Brexit, ou si vous préférez, qui officialise la procédure de divorce avec l'Union européenne.
Elle l'a fait chez moi, elle était à dîner à la maison.
Le même jour, la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, a reçu le feu vert de son Parlement pour demander officiellement à Londres d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance. Des milliers de personnes ont manifesté hier en Guyane, notamment à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Il s'agissait des plus grosses manifestations jamais organisées sur le territoire, selon les autorités préfectorales. Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont attendus sur place aujourd'hui. C'était attendu, ça n'en reste pas moins un coup dur pour François Fillon. Sa femme, Pénélope Fillon, a donc été mise en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics, notamment parce qu'il y a aussi complicité et recel d'abus de biens sociaux, recel d'escroquerie aggravée. Elle doit répondre de l'accusation d'emploi fictif. Ancien préfet de l'Île-de-France et directeur de cabinet de Manuel Valls, Jean d'Aubigny, sera jugé pour fraude fiscale. Il est soupçonné de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014 pour un montant d'impôts impayés de 190 000 euros. Pendant que je vous compte ce flash, je suis en train d'écouter en même temps Manuel Valls qui annonce à l'instant même, à la seconde, qu'il votera Emmanuel Macron. Ce n'est pas une surprise, c'est exactement ça.
On le reçoit tout de suite après à 8h32.
Voilà, donc il va voter Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Meilleure réponse selon lui à Marine Le Pen. Voilà, toutes les semaines est organisé un événement pour m'affaiblir, a déclaré de son côté un peu plus tôt ce matin donc Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle. Donald Trump vient de signer un décret ordonnant un réexamen de la mesure phare de Barack Obama sur le climat, le Clean Power Plan, qui impose aux centrales thermique, des réductions de leur émission de CO2 de 32% d'ici à 2030 par rapport à 2005. Des images satellites montrent des préparatifs en vue d'un nouveau test nucléaire en Corée du Nord. Poursuivie pour crime contre l'humanité, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été jugée non coupable et acquittée à la majorité des membres du jury. L'épouse de l'ancien chef d'État reste toutefois derrière les barreaux, puisqu'elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les buralistes, et ça c'est une surprise, lancent leur propre cigarette. La Confédération des buralistes a déposé la marque LCB, un partenaire la produira en Bulgarie avec du tabac français, et ces nouvelles cigarettes seront commercialisées dans les toutes prochaines semaines. Vainqueur du Paraguay 3-0, le Brésil est le premier pays qualifié pour le mondial de l'an prochain, mondial de foot bien sûr. Dans le même groupe, l'Argentine a perdu 2-0 en Bolivie et ça s'annonce donc très mal pour les Argentins. Et puis l'équipe de France de football, qui n'avait plus perdu depuis la finale de l'Euro, s'est inclinée 2-0 hier soir en match amical au Stade de France face à l'Espagne.
Merci. Alors, tout à l'heure, je crois que Manuel Valls donc vient d'annoncer chez Jean-Jacques Bourdin. Eh bien, c'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Jean. Bonjour Jean.
C'est Jacques.
Bonjour.
Moi, c'est Jacques.
Bonjour Jacques. Bonjour Bourdin. Jean-Jacques Bonjour. Bourdin, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe dans votre émission RMC sur Nova, hein, c'est le nouveau concept. Les politiques se lâchent, les politiques se livrent, les politiques aiment être, je dirais, un petit peu bousculées. Ça les fait parler. Quelle est votre technique?
Eh bien, on les bouscule, justement.
Ah, on les bouscule. On les laisse un peu lié à la tête.
Alors, j'ai juste Jean qui va parler, parce que Jacques et Bourdin, vous n'êtes pas en état. Oui.
Eh bien, on les prend directement.
Secoués physiquement.
On les accueille avec une bonne claque.
Une bonne claque. Au maquillage, ils sont au maquillage. Le type est au maquillage, un peu éthique, il est là. Bon, on sait comment ça se passe. Il est assis. Il y a Natacha de presse qui est là. Il dit c'est moi, c'est Natacha de presse. Bon, ensuite, on leur met un petit peu de poudre pour ne pas qu'ils luisent.
On commence par les choyer.
Manucure, on les pédicure, tout ce qui est en cure.
Et là, on donne une bonne claque.
Pas derrière l'épaule.
Alors,
ensuite, il y a coiffure pour ceux qui ont des cheveux. Les autres, on leur en prête. Très souvent, vous verrez des gens qui n'ont pas de cheveux dans la rue, un peu éthique, en avoir à la télévision. C'est du prêt de cheveux. Ça se fait depuis toujours.
Le triangle.
Je sais que Fillon s'était fait prêter des cheveux par quelqu'un. Il y a eu tout un scandale par Robert Borgi. Bon, ensuite, il arrive, il est là. Il se poudre ou le visage ou l'intérieur du nez pour des gens qui sont sujettis à des drogues, bien
sûr.
Ensuite, on prête des dents pour ceux qui n'en ont pas. On soigne les caries. Très souvent, les problèmes d'haleine sont résolus par des choses mentholées.
On
claque les dents.
On pète les dents derrière. On remet des dents. Et après, on repète les dents.
C'est la technique Jean-Jacques Bourdin. Donc, une fois qu'il l'a, le type est acculé, je dirais. Le type est forcé.
Acculé
de sortir le meilleur. Il faut y aller. Je ne voulais pas dire. Dit en gros.
Il dit ce qui vient de ses tripes, ce qui vient de l'intérieur.
Donc vous pensez que Manuel Valls est arrivé là-bas chez Bourdin en disant « Je ne dirai jamais que je soutiens Macron. » Paf, deux secondes après, clac, paf, dent, paf, bah, je soutiens Macron.
C'est ça.
Good Bourdin, bad Bourdin. C'est comme les chiens.
Good cop, bad cop. Donc un qui dit « T'inquiète pas », l'autre qui claque. Et le méchant, c'est lui-là.
C'est moi toujours. Je lui fais sortir ses nageoires.
Merci. On en apprend un peu plus sur les techniques journalistiques. Nous voici maintenant dans les rues de Toulouse.
On cherche un chanteur.
On cherche un chanteur, une chanteuse.
Un troubadour, Roger.
Belle recherche à Toulouse ce matin.
Quelqu'un qui peut chanter, réveiller les gens, monsieur, chanteur, chanteuse, non, désolé, non, mais c'est pas grave.
Vous cherchez des chanteurs en rue?
Oui, on cherche parce que les rues, les immeubles sont très très bas, donc on peut vraiment réveiller tout le monde.
Moi, ah oui, ça vaut le coup. Pas, ça serait dommage
non,
de s'en priver.
Moi, je chante pas malheureusement, mais bon, j'aurais bien aimé.
C'est que ce casque avec l'écouteur là que vous avez sur les oreilles.
Ça, c'est un casque de gamer de quand j'étais jeune et que je jouais à Call of quand j'avais 14 ans sur l'ordinateur de mes parents.
Mais quel âge, là ?
21.
Vous avez gardé le casque de gameuse sans le game ?
J'ai toujours le petit micro, j'ai l'air d'une conne, du coup, dans
non,
la rue.
Non, je ne crois pas du tout. Ne parlez pas comme ça de vous-même, je vous l'interdis. Je vous aime beaucoup, je vous protégerai toujours contre vous et vos attaques.
Oh, c'est gentil, merci beaucoup.
Vous êtes formidable, vous avez un talent fou, vous avez du génie, vous avez un physique, vous avez une âme, vous avez un cœur. Et vous allez aller dans cette petite chambre d'hôtel que j'ai réservée. Non, mais alors, dis donc, pas du tout, pardon, je vous prie de m'excuser. Mais dis donc, alors vous êtes, on a gardé le casque, le micro, on est là, on est dans le game. La vie est un jeu pour vous?
Oui, on peut dire ça comme ça. En ce moment, elle se résume plus à aller au travail, à rentrer le soir et à dormir. Mais...
Oui, mais je sais que vous prenez tout d'une façon ludique. Le sommeil vous fait marrer, le travail vous poêle et le transport vous explose la gueule.
Ah
bah
oui, c'est ça, je suis morte de rire tous les matins dans le métro.
MDR, LOL, PTDR, dites-moi, on est sur le métro toulousain, je ne le connais pas, qu'est-ce qu'il a? Il a plus d'accent que le métro parisien, qu'est-ce qu'il a de particulier le métro?
Non, il est tout petit, il n'y a pas de conducteur.
Ah, il n'y a peut-être pas de rame non plus.
La particularité, c'est qu'on entend les stations de métro en occitan, non?
Ah oui, c'est vrai.
Et on entend les stations de métro en occitan. Et on entend, par exemple, dites-moi des noms de stations de métro en occitan, Mairie des Lilas.
Oula, aucune idée, non, mais c'est allemand moi.
Ah bah alors en allemand, ça moi j'ai...
Alors j'habite Strasbourg initialement, donc je peux vous dire des choses.
Alors sur le métro Strasbourg-Toulouse par exemple, c'est plutôt ça commence en alsacien, ça se termine en...
C'est ça.
Dites-moi des mots, dites-moi des stations de métro toulousaines en occitan, s'il vous plaît.
Vous en connaissez ? Non, je ne sais pas.
Ou en alsacien ?
Ah si, Jolimont, ça se dit Belmont, figurez-vous.
Belmont, quel beau pays la France. Passer d'une station de métro occitane à une station de bulles alsaciennes, partir avec son casque de gameuse dans un bureau qu'on n'aimait pas, qu'on a fini par aimer en y mettant soi-même cet amour qui manquait dans ces corridors vides, dans ces portes fermées, dans ces gens penchés sur leurs ordinateurs, entre vieux comptes Facebook qu'on va checker, entre trois comptes qu'on vérifie, et ces tickets de cantine et cette machine à café qui est un prétexte à des rendez-vous, à qu'as-tu fait samedi dernier, que feras-tu samedi prochain, et cette vie ponctuée de samedi, et ces années ponctuées de vacances, et puis vous qui passez dans la rue, et qui tombait sur Jacques Souban, superbe enfant, incertaine, pas sûre d'elle-même, et tellement ouverte aux sentiments des autres. Dans cette chambre d'hôtel de Toulouse Centre, je t'ai révélé à toi-même ce matin-là. Souviens-toi, c'était mercredi. Je vous embrasse très fort.
Merci.
Je vous souhaite le meilleur du monde.
C'est gentil, salut. Vous êtes très fort. Salut.
7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Grégoire Bizot, bonjour.
Bonjour.
Ils ont bon noton. Dites-moi, à quasiment un mois du premier tour des présidentielles, quasiment, c'est ça.
Ouais, okay.
Eh bien, vous me disiez que quasiment 60% des votants potentiels n'ont toujours pas fait leur choix.
Ouais, absolument. Et je voudrais vous parler d'un mot que vous avez peut-être entendu, en tout cas si vous écoutez cette drôle de tribu qui s'appelle les journalistes politiques, auquel j'appartiens. Et c'est un mot aux consonances un peu savantes et vaguement chimiques, qui donne un air tout de suite très sachant, qui est le mot cristallisation.
Ah, c'est en psychanalyse ? Moi, je connaissais pas.
Ah oui, la cristallisation, elle est... Alors, la cristallisation, on l'entend dans genre... la cristallisation n'est pas encore faite, ou la cristallisation est en train de se faire, ou... Tout est possible tant que la cristallisation n'est pas faite. Alors, qu'est-ce que c'est que la cristallisation ? J'en suis revenu à la base, je suis allé voir dans le Larousse. Donc, cristalliser, c'est amener une substance à l'état de cristaux, lui donner la contexture régulière des cristaux. C'est assez beau, assez poétique.
Oui, on est loin de là pour le moment.
On est loin. Alors, par extension, ça donne faire de quelque chose qui était diffus, inorganisé, imprécis, en gros un peu le bordel, devienne fort, cohérent, précis. Donc la cristallisation, pour nous commentateurs politiques, ça serait ce moment un peu imaginaire et magique où l'opinion publique se fixe, se
décide.
Où on décide.
Dit bon sang, mais c'est bien sûr.
C'est lui.
Oui.
Et là, dans une espèce de pensée communément admise, plus rien ne se passe. Là, ça se fige, ça se cristallise, ça devient comme ça fossile et... La photo, le rapport de force électorale se fixe. Alors évidemment, tout le monde attend ce moment en disant, on le commente, on le sent, on le renifle, on dit quand la cristallisation va-t-elle se passer ?
Alors, elle s'est passée pour vous ?
Alors ?
Ou pour la France ?
Pour la France. Alors, le problème, c'est que cette élection 2017, moi je pense qu'il n'y aura probablement pas de cristallisation, qu'on attend une cristallisation qui ne viendra jamais. Pourquoi ? Parce que... alors d'abord, il faut quand même rappeler que dans les précédentes, cette cristallisation, ce n'est pas juste un truc qu'on invente, etc. Ça s'est vraiment bien passé. Il y a deux petits exemples. C'est pourquoi dans l'histoire politique française, par exemple, le débat d'entre-deux-tours n'a aucun effet sur les intentions de vote. Que le débat soit mauvais. Par exemple, Ségolène Royal, tout le monde a dit, et les sondages aussi, on dit « Oh là là, elle a fait un mauvais débat contre Nicolas Sarkozy en 2007 ». Et pourtant, ses intentions de vote n'ont quasiment pas bougé.
Ah bon ?
Alors, c'est quoi ? C'est un rituel, le débat de deuxième tour ?
Non, mais ça veut dire que, précisément, les gens ont fixé leur opinion et que donc, ça ne bouge pas. Hollande, tout le monde a dit, ah oh là là, il a mis une pâtée à Nicolas Sarkozy.
Président.
Voilà, moi,
en gros,
président.
Vous voulez dire qu'on est tellement derrière son candidat au second tour qu'on a
absolument.
Juste... On se dit, ah merde, mon candidat a perdu, mais
non,
on ne passe pas de l'autre côté.
Ou plus exactement, comme c'est notre candidat, ça reflète l'opinion qu'on a du débat, reflète exactement le rapport de force électorale qui est déjà fixé.
D'accord.
Bon, ça, c'était pour avant. Mais aujourd'hui, il y a dans cette drôle de campagne présidentielle, totalement inédite et un peu folle, il y a plusieurs éléments qui font que ce moment de cristallisation risque de ne pas avoir lieu, ou s'il a lieu, il aura lieu le jour du vote à la fermeture.
Dans l'isoloir,
absolument. Pourquoi ? Parce qu'on a une droite, il y a une vraie envie d'alternance de droite dans un pays, en tout cas, mais on a un candidat de droite qui est totalement décrédibilisé par les affaires. On a une gauche... qui résiste un peu plus que prévu, mais totalement divisé entre deux candidats qui sont quasiment à égalité. Et puis, on a un candidat neuf dont il y a une, qui répond à une envie de renouvellement, mais dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il incarne, et surtout on ne sait pas très bien avec qui il va gouverner demain.
De donc quoi Macron est-il le nom?
Voilà, de quoi dire, absolument. Donc ces trois inconnus font qu'aujourd'hui, le taux d'électeurs sûrs de leur vote n'a jamais été aussi faible. Hein, par exemple, je vous donne un exemple. En 2012, à cette même époque, les électeurs qui voulaient voter sûrs de leur vote pour Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'était autour de 75-80%. Aujourd'hui, Hamon, Mélenchon et Macron, c'est autour de 50%. Alors, il y a tous les analystes et tous les politologues et toutes les équipes de campagne regardent les courbes de sondage. Alors, moins d'ailleurs les niveaux que justement le taux de sûreté de ces électeurs. Et on constate, hein, depuis quelques semaines, depuis deux semaines à peu près, que le taux de sûreté des électeurs de Macron monte. Ils sont passés de 50 à 60, ils ont fait 10 points quasiment en une dizaine de jours. Et donc là, tout le monde se dit, si vous avez bien compris, la cristallisation
est en train d'opérer.
Ah bien, voilà, exactement. Voilà, mais la cristallisation est en train
sur les candidats plus. Non, c'est plus sur Mélenchon ou Marine Le Pen que là, ce sont des candidatures et ils ont des adhérents beaucoup plus motivés, non?
C'est vrai pour Marine Le Pen, c'est pas vrai pour Mélenchon. Mélenchon est à 50% aussi. Ça veut dire que il va y avoir une espèce de perméabilité, une fluidité entre Hamon, Mélenchon et peut-être même Macron. Il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas fixés encore et qui peuvent bouger probablement jusqu'à la fin. Et ce qui fait que si on rajoute à ça deux éléments très importants dont on parle très peu, le taux d'abstention qui va être a priori record et aussi une envie de voter blanc qui est aussi quelque chose de très fort aujourd'hui dans l'opinion publique, donc une envie de dire je ne m'y reconnais pas globalement.
Sauf s'il y a la cristallisation. Thomas
Mais concernant l'issue du scrutin, plus la cristallisation est tardive, donc forcément plus c'est incertain et plus le risque de voir des extrêmes créer la surprise est grand.
Absolument. Des extrêmes ou même le risque parce que ce qui est important, il faut toujours rappeler ça quand on regarde les sondages, c'est ce que révèlent les sondages aujourd'hui. C'est certainement pas une image prédictive. Ce que ça révèle, c'est que ça révèle une certaine indécision. Hein. C'est-à-dire que les Français sont surtout indécis compte tenu de ce taux de non-sûreté. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les Français indécis utilisent ces sondages qui reflètent leur indécision comme un élément de décision.
J'ai compris.
Donc là, l'espèce de système un peu médiatico-sondagier et d'opinion publique se mord un tout petit peu la queue. On vit là-dedans, ce qui rend cette cristallisation très hypothétique.
Merci Grégoire Bizot.
De Libération.
Ah, ça y est, j'ai eu l'apparition, je sais pour qui je vais voter. Ah non, il n'est pas candidat.
7h-9h plus près de toi.
Ça va ?
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
C'est quasiment la fin de l'émission, mais c'est l'heure de grand invité de 8h quasiment 55. Ammoniacal, bonjour.
Bonjour.
Ammoniacal, tu as décidé d'affronter un panel d'auditeurs. C'est Face à France, la grande émission politique sociétale de plus près de toi, qu'aujourd'hui comme invité, Ammoniacal.
Bonjour.
Ammoniacal, on va rappeler un petit peu comment tu es physiquement.
Eh bien, je m'appelle Ammoniacal, comme vous venez de le dire, et je suis moitié homme. Moitié pingouin et moitié chiffon.
Tout de suite, notre première question est liée à ça. Comment vous appelez-vous ?
Marie.
Marie, quelle région ?
Bonjour.
Alsace.
Marie, Alsace, une question tout de suite pour mi-homme, mi-pingouin, mi-chiffon, ammoniacal.
Je trouve ammoniacal que vous parlez beaucoup de vos parties chiffon et homme et peu de la moitié pingouin.
Réponse d'ammoniacal, une question dérangeante, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
La réponse est oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Je ne parle pas beaucoup de mon côté pingouin parce que...
Ça climate mal.
Quoi ?
Pardon.
Hein ? J'ai paniqué là.
Mais vous avez paniqué tout de suite votre tout petit générique.
Non, j'ai un peu honte de mon côté pingouin parce que ça me donne une démarche un peu qui me plaît pas trop. J'aimerais avoir une démarche de mannequin parce que j'essaie de faire genre de...
Il y a des mannequins pingouins.
Oui, bien sûr, mais comme j'ai une différence, les costumiers dans la forêt magique ne me prennent pas toujours parce que j'ai un profil qui ne va pas forcément intéresser les gens.
Tu habites la forêt magique, hein ?
J'habite la forêt magique, juste à côté de la fontaine, à côté de la fontaine aux fées et juste derrière, il y a des...
Alors j'arrive à la fontaine aux fées, je tourne à droite.
Non, parce qu'il y a des chiens. Il y a des
donc
chiens.
J'évite.
Oui. Oui, donc vous allez tout droit et après...
Au feu.
Au feu, il y a un feu et ah. Là, attention.
Ah, quand je suis à l'hypermarché U.
Il y a un... Ben là, ça... vous y êtes presque. Ouais. Vous y êtes à côté.
Faut demander n'importe comment.
Oui, tout le monde me connaît.
Tout de suite, une question d'un habitant de la forêt magique. Bernard, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel âge, Bernard?
Bernard Fraîche, 47 ans.
47 ans. Bernard Fraîche, sans emploi, vous me disiez.
Sans
hein,
emploi,
c'est vieux.
Alors moi, j'ai une petite question ammoniacale, bien sûr. Nous avons un ami en commun. Nous sommes tous les deux amis avec le géant vert. Alors, avez-vous de ses nouvelles?
Ben oui, mais il a disparu parce que il se baladait dans les faux... Dans les maïs.
Oui.
Et.
Ah ben c'est peut-être sa tête qui a disparu, comme il est très grand, mais que le reste du corps est là.
Non, parce qu'il courait et il s'est fait mal. Je peux pas dire où.
D'accord. Au cucu.
Enfin, juste avant le cucu.
D'accord. Tout de suite, ton petit générique, peut-être, parce qu'on ne l'a pas eu. Attention.
Mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Maniacal.
Alors tout de suite une petite surprise pour toi Maniacal, c'est un chœur de sans emploi d'Île-de-France qui va chanter le générique avec toi.
Mignon, 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 mignon,
Ammoniacal. Ammoniacal, une dernière question pour toi.
Oui, de Ryan Bijaoui.
Bonjour.
Monsieur Bijaoui,
Ryan.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bijaoui, conseiller en assurance.
Oui, tout à fait.
Vous êtes très bien habillé.
Et maroquinier aussi. Monsieur Ammoniacal, est-ce que vous êtes de droite?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Une question un peu pertinente.
Une question qui est dérangeante, bien sûr, dans le monde magique.
Dans un sens, je peux dire que je suis de droite parce que je tiens mes stylos, je tiens mes choses à ma trousse. J'ai pas envie qu'on me prenne ma gomme.
Tu n'es pas prêteur hein, à l'école.
Si, ouais, oui. Mais en même temps, je suis un peu de gauche dans le sens où je trouve que c'est injuste au niveau de la sécurité sociale dans les forêts magiques. Et à un moment donné, il y a un épervier coupongle qui n'a pas été remboursé parce qu'il s'était froissé une aile.
C'est ces éperviers qui jaillissent du ciel sur les ongles des êtres humains pour les couper.
Oui, ils jaillissent du ciel pour couper les ongles des gens. Et il s'était froissé l'aile en conduisant une moissonneuse batteuse. Et...
Ah là, je visualise beaucoup moins la situation.
Justement, parce
qu'il
voulait
du monde, là.
Grimper un arbre. Il voulait grimper un arbre sur une montgolfière.
Il n'a pas vraiment répondu à ma question.
Enfin, en tout cas, Monsieur Bijaoui, calmez-vous. Non, mais c'est sa réponse, Monsieur Bijaoui. S'il vous plaît, calme-toi aussi, Ammoniacal, s'il vous plaît. Jean-Claude, une seconde. On y vient, je suis obligé de rendre l'antenne. Merci, c'était la rencontre avec Ammoniacal. C'est encore mon émission. Merci, Ammoniacal. Je rends l'antenne, merci. Maintenant, les 30 Glorieuses, nos amis Yacine et Thomas. Et quant à nous, à demain. Comment?
Je sais que les chiens, c'est quand même des gens gentils.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.